Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le mardi 26 août 2025. Parfois, la finance, c'est les lendemains d'hier. Vous savez, ce genre de soirée où vous avez un peu trop forcé et que vous vous réveillez avec un train à vapeur qui vous passe juste au-dessus des sourcils et vous vous dites « cette fois, j'arrête ». Enfin, jusqu'à la prochaine fois. C'était un peu comme ça que l'on pouvait résumer la séance de ce lundi. On a fait la fête vendredi parce que Powell avait laissé entrevoir la possibilité d'une baisse des taux. Et puis on a un peu réfléchi pendant le week-end, on a relu la transcription du speech, parce que non, personne ne l'a vraiment écouté. Et on s'est dit qu'il y avait encore un peu trop d'obstacles avant le 17 septembre. Alors on ne va pas dire qu'on regrettait la soirée de vendredi, la journée de vendredi. Mais pour être franc avec vous, j'ai quand même l'impression qu'on avait quand même 2-3 remords d'avoir couru après le marché sans avoir trop de raisons d'y croire. Alors oui, Powell a été plus dovish que hawkish, mais entre vous et moi, j'ai quand même connu des colombes un peu plus enthousiasmantes ces dernières années. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en principe, les taux vont baisser en septembre, et j'insiste sur le terme « en principe » parce qu'il y a encore des obstacles à franchir. Des obstacles comme le PCE de vendredi qui est attendu à plus de 2,6% sur un an, stable par rapport à juin, mais le core grimperait à 2,9%. Le core PCE, c'est celui où on enlève la bouffe et l'essence parce que ça bouge trop, et on mesure la tendance de fond des prix. C'est lui qui sert de boussole officielle à Powell pour savoir s'il doit bouger les taux. En gros, il sort à 2,9% ou au-dessus, les 85% de croyants qui ont mis des cierges à l'église pour la baisse des taux vont se barrer en courant pour aller sacrifier un agneau en style vaudou pour tenter de sauver les derniers espoirs. Et comme c'est le dernier chiffre avant la réunion du 16-17 septembre, ça promet d'être un peu chaud et ces angoisses faisaient partie du stress latent de la séance d'hier. Bref, tout le monde a un peu levé le pied hier en se disant que le patron de la Fed avait peut-être parlé un peu trop vite et que nous avions un peu interprété un peu trop bien les choses. Effectivement, à aucun moment de son discours, Powell a offert la moindre garantie. Au contraire, si vous regardez entre les lignes, on a quand même l'impression que n'importe quel chiffre économique qui sera publié entre maintenant et le 17 septembre a le pouvoir de tout faire capoter dans la direction des faucons. On appelle ça un « anger trade ». On se fait des illusions le vendredi, et le lundi, c'est le brutal retour sur Terre. Hier, les volumes étaient maigres, signe que personne n'osait vraiment se positionner, parce qu'en plus de tout ça, Nvidia publiera demain soir après la clôture. Nvidia, le seul titre qui, à lui seul, peut faire bouger le S&P 500 comme une boule de flipper. Bon, après, je dramatise peut-être un peu beaucoup, parce que la baisse était somme toute mesurée. Mais bon, pour une fois, ça baisse, et qu'on n'achète pas tout et n'importe quoi avec l'argent de la tirée du petit, il fallait quand même le signaler. Le Dow Jones reculait de 0,77%, le S&P 500 abandonnait ses niveaux records pour revenir à 0,43%, le Nasdaq baissait de 0,22% et Nvidia, malgré ses publications de demain, parvenait quand même à grappiller 1,02% à quelques centimètres de son record historique. À noter que Tesla a légèrement avancé de 1,9%, sans raison si ce n'est le nouveau procès lancé par Musk. Intel a reculé après la confirmation que l'État US prenait une participation. Oui, vous avez bien lu, finalement, l'État actionnaire, ça sent la soviétisation du chip, et on n'aime pas trop la politisation de la bourse parce que ça ne finit jamais bien. Et oui, sinon la dette américaine ne serait pas de 38 000 milliards. Et côté corporate, Keurig Dr Pepper a chuté de 11,5% après son deal à 18,4 milliards pour acheter GDO Peet's, comme quoi il y a des cafés qui sont quand même plus chers qu'à la rue du Rhône. En Europe, c'était plutôt la même ambiance. Stock 600, moins 0,4%. Le DAX, moins 0,4%. Le CAC 40, moins 1,6%. Paris a été la pire, tout spécifiquement plombé par le génialissime Bayrou, qui a décidé de mettre son gouvernement au vote de confiance le 8 septembre. On ne sait pas s'il aura le vote de confiance de ses congénères politiciens, mais visiblement, du côté investisseur, c'est pas le mot « confiance » qui vient en premier à l'esprit. Il faut dire que le budget du clown de Matignon n'est pas non plus le budget le plus sympathique de l'histoire pour les Français moyens, et d'autant plus quand vous avez le Premier ministre qui vous explique que vous allez devoir faire des efforts pour corriger les conneries d'une bande de tocards qui ont dépensé plus qu'ils ne gagnaient pendant que l'économiste en chef décrivait des bouquins interdits aux moins de 18 ans. La pilule est dure à avaler, et visiblement, le 10 septembre, va pas falloir avoir envie d'aller faire du shopping à Paris. Bref, la France n'avait plus confiance et je serai Bayrou, je commencerai à faire mes cartons. On notera aussi pas mal de pression sur le secteur éolien. Ørsted s'est pris 16% dans les dents après que Trump ait suspendu son projet éolien aux États-Unis. Quelle surprise! Message subliminal, l'énergie verte, pas chez moi. Forcément, Vestas, Siemens Energy et compagnie ont pris cher et auraient donné cher pour être restés un jour de plus en week-end. Heureusement, il y a eu quelques survivants, Puma qui bondissait de 16%. Puis moi qui bondis, elle est facile celle-là, grâce aux Pinot qui envisagent de céder leur participation et GDE Peet's qui a flambé de 17% parce que Keurig Dr Pepper paye la note. On en a déjà parlé. En résumé, l'Europe a ses propres problèmes, mais les angoisses des taux américains et des chiffres de Nvidia ne poussent pas à l'enthousiasme exacerbé en début de semaine. En Suisse, on suivait le mouvement sans grande raison fondamentale, mais comme Novartis et Roche se repliaient tous les deux, la motivation est restée au placard, puisque même les upgrades d'hier n'ont pas été salués à leur juste valeur, entre autres sur Logitech. Les marchés asiatiques sont aussi dans le rouge. Ce matin, ne cherchez pas des justifications ailleurs. La seule et unique raison du dégonflement de l'Asie, c'est encore une fois la même chose qu'aux USA et qu'en Europe. On est sur un lendemain d'hier et on a la trouille de demain. La Chine consolide à haute altitude quand même, après avoir affiché les plus hauts de plusieurs années. Hong Kong lâche 0,15%. C'est pas non plus sell-off. Et force est de constater que depuis plusieurs semaines, la région commence à faire preuve d'une résilience assez dingue compte tenu des chiffres économiques. Le Japon recule de 1% à l'heure où je vous parle. Et puis encore une conséquence du stress induit par les résultats de Nvidia demain soir. Les fournisseurs et investisseurs liés aux géants de l'intelligence artificielle, de SoftBank à Hynix, ont tous reculé. Du côté du baril, on est en mode pas de deal, pas de paix, mais un baril qui grimpe, la guerre s'enlise, le fait que les négociations s'enlisent et que Moscou, déclare qu'aucune rencontre n'est prévue, continue de motiver le baril, et on reparle des sanctions de Washington sur le pétrole russe. Le WTI est à 64,45, l'or est à 3421, le Bitcoin s'enfonce sous les 110 000 et le rendement du 10 ans est à 4,29. Pendant que les marchés baissaient tranquillement, Trump a décidé de publier un nouveau volet de la série « La Maison Blanche » contre la Fed. Il a annoncé l'air de rien qu'il virait Lisa Cook, gouverneure de la Fed et première femme afro-américaine assiégée au board. La version officielle, c'est pour fraude hypothécaire. Elle aurait déclaré deux résidences principales, ce qui n'est pas légal. Et officiellement, Trump a juste trouvé une nouvelle opportunité de placer un de ses pions à la Fed, comme il l'a fait avec Miran. Si vous voulez tout comprendre, il y a une vidéo ici sur Zone Bourse qui explique le concept de l'agent infiltré. Powell va commencer à se sentir vachement seul pour ces derniers mois en tant que chairman de la Fed. Il reste néanmoins un problème à gérer. Légalement, le président peut virer un gouverneur pour faute grave, mais la Fed n'est pas une agence comme les autres et le licenciement n'est pas aussi simple qu'au BLS. Autant dire qu'on part sur un combat judiciaire quasiment homérique qui pourrait finir devant la Cour suprême. Lisa Cook ne compte pas se laisser faire et Elizabeth Warren a déjà sorti le lance-flamme en qualifiant Trump de putschiste monétaire. Et j'ajouterais pas que monétaire, puisque Trump a quand même réussi à déclarer que les Américains aimeraient bien avoir un dictateur à la Maison Blanche. Entre le Kremlin et Washington, on va commencer à trouver que notre Conseil fédéral est quand même vachement cool, même si parfois on leur reproche leur manque de vigueur. Sur l'affaire Cook, les marchés n'ont quasiment pas réagi. Un petit affaiblissement du dollar, une courbe des taux qui s'est pontifiée, mais rien de dramatique. Comme toujours avec Trump, c'est du bruit à court terme, mais qui parfois s'accumule dangereusement. Et puis, n'oublions pas qu'en virant Lisa Cook, Trump tente de prendre un peu plus le pouvoir à la Fed. Et la mort de l'indépendance de la Fed ne sera pas sans conséquence pour les marchés. C'est pas moi qui le dis, c'est Lagarde. Et pendant ce temps, Elon Musk est en train de dépenser son pognon en frais d'avocat avec un autre épisode du grand cirque de la finance. Il a lancé deux procès en même temps contre Apple et OpenAI pour monopole et entrave à la concurrence. En gros, il accuse Apple de favoriser ChatGPT sur l'Apple Store, ce qui bloque son propre bébé XAI et son chatbot Grok. Et résultat, Tesla monte un peu, Apple bronche à peine, et OpenAI n'est pas coté et répond que c'est du harcèlement et qu'ils ont quand même d'autres chats à fouetter. Bref, Musk fait son show habituel, et quand il ne fabrique pas de fusées, il fabrique des procès et bricole des partis politiques. Autrement, Mercedes veut vendre sa participation dans Nissan. Nissan n'a pas trop aimé ça. À Tokyo ce matin, Lutnick promet des updates cette semaine sur les 550 milliards de dollars qui doivent être investis aux USA dans le cadre des accords liés aux droits de douane. Et puis à propos de droits de douane, un haut négociateur chinois, a priori Li Chenggang, débarquera à Washington cette semaine pour relancer le dialogue commercial sur fond de trêve tarifaire prolongée jusqu'en novembre. Au menu, discussion avec la Maison Blanche, le Trésor et le business américain, histoire de calmer le jeu sur les terres rares et la tech. Trump, qui rêve déjà d'un sommet avec Xi, parle même d'un voyage en Chine, parce qu'entre deux menaces de tarifs, il adore promettre une grande relation type « best friend forever ». Nous sommes mardi matin et tout le monde a déjà les yeux fixés sur demain soir. Demain soir, Nvidia publiera ses résultats et là, c'est simple. Soit ça rassure tout le monde et le marché repart en fanfare, soit ça déçoit tout le monde et les châteaux de cartes s'écroulent. Quand on sait que Nvidia pèse 8% du S&P 500, on comprend pourquoi les investisseurs sont tétanisés. On pourrait oser parler de bulle spéculative, mais en ce moment, c'est très mal vu de dire du mal de l'industrie de l'intelligence artificielle, puisque c'est celle qui va nous rendre tous très 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 riches. Alors en attendant, on continue de battre la musique en rythme avec l'orchestre. Mais demain soir, ça sera chaud, et si vous voulez tout savoir sur ce qu'il faut attendre et surveiller demain soir, je vous ai concocté une vidéo toute prête. Et ça, pour ça, vous la trouverez donc là-dessous et vous aurez la même mercredi soir vers minuit pour débriefer des chiffres du géant de l'intelligence artificielle. Pour le reste, eh bien, il y aura les chiffres du Core CPI au Japon dans un moment. Et puis cet après-midi, il y aura les Durable Goods aux USA ainsi que la confiance du consommateur. Et ça, on va en reparler demain. D'ici là, passez une excellente journée. Méditez bien sur Nvidia. Prenez des notes dans la vidéo. Et à demain.